Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, l'Europe selon Macron, trop mortelle, et cigarette Internet, l'État doit-il nous protéger de nous-mêmes ? Et nos débatteurs ce dimanche, Magali Lafourcade, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Bertrand Badie, bonjour.
Bonjour.
Professeur en relations internationales, votre dernier ouvrage, c'était l'an dernier, Pour une approche subjective des relations internationales. Thomas Gomard, bonjour.
Bonjour Hervé Gardette.
Historien, directeur de l'IFRI, votre dernier livre chez Talendier, L'accélération de l'histoire. Et puis Eric Fotorino, bonjour.
Bonjour Hervé.
Journaliste, cofondateur du magazine Le 1 et de Zadig, Le 1 de cette semaine, Israël-Iran, que se passe-t-il au Moyen-Orient ? Et Zadig, rêver l'Europe. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, nous demanderons si l'État doit nous protéger de nos comportements addictifs, par exemple de la consommation de tabac ou d'Internet, pour des raisons de santé publique. S'agit-il d'une atteinte à nos libertés individuelles ? Y a-t-il des circonstances dans lesquelles cela s'avère nécessaire ? Nous en débattrons, mais tout de suite, direction la Sorbonne pour notre premier sujet.
Paul Valéry disait au sortir de la Première Guerre mondiale que nous savions désormais que nos civilisations étaient mortelles. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir, et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant.
Après avoir diagnostiqué en novembre 2019 la mort cérébrale de l'OTAN, voilà donc qu'Emmanuel Macron nous alerte sur une possible disparition, celle de l'Europe. Elle est mortelle, nous dit-il, ce qui à vrai dire est le propre de toute organisation. Mais ce qu'a voulu signifier le président français, c'est que cette disparition pourrait advenir prématurément si rien n'est fait pour l'empêcher. Le chef de l'État était donc à la Sorbonne, jeudi, à Paris, pour un discours de près de 2 heures consacré à l'Union européenne. Un discours en miroir à celui tenu en 2017, au cours duquel il avait défendu sa vision d'une souveraineté européenne. Depuis, il y a eu la crise du Covid, la guerre en Ukraine, la montée en puissance de la Chine. À cette idée de souveraineté, largement partagée aujourd'hui, Emmanuel Macron vient ajouter une épaisseur supplémentaire. L'Europe puissance. Alors écoutons-le encore. Les valeurs, dit-il, de la démocratie libérale sont de plus en plus critiquées et contestées. L'Europe est dans une situation d'encerclement face aux grandes puissances régionales. Le décrochage nous pend au nez. Nous sommes encore trop lents, pas assez ambitieux. Et cela vaut sur le plan des valeurs, comme sur celui de la défense ou encore de l'économie, avec des règles de concurrence que les autres ne respectent pas et qui nous affaiblissent. Pour inverser ce pronostic vital en partie engagé, le chef de l'État plaide pour un grand emprunt européen afin d'investir dans la défense, pour un choc d'investissement commun, pour l'introduction d'objectifs de croissance dans la politique de la Banque centrale européenne ou encore pour une meilleure maîtrise des frontières. Bref, une prophylaxie de choc pour assurer l'avenir du projet européen. Mais le diagnostic est-il pertinent ? Et si oui, les remèdes proposés sont-ils judicieux ? Voilà, on va discuter de tout ça pendant la prochaine demi-heure. Je voudrais commencer avec vous, Eric Fotorino, puisque, je le disais, la une du dernier numéro de Zadig, c'est « Rêver l'Europe
oui. ».
Est-ce qu'Emmanuel Macron vous a fait rêver jeudi avec son discours sur l'Europe ?
Bon, je pense que c'était pas un discours pour nous faire rêver, c'était pour nous remobiliser. Et derrière le mot puissance, il y a peut-être le mot impuissance qui se profilait en creux. Et donc, c'était comment essayer de lutter contre cette impuissance ? Est-ce qu'on est devenu, comme la France, qui était jadis une moyenne puissance, devient une moyenne impuissance ? Est-ce que c'est le cas de l'Europe ? Alors, moi, ce qui m'a intéressé dans ce discours, que j'ai trouvé trop long, il pourrait resserrer quand même quelquefois. Mais bon, je crois qu'on n'était pas dans l'Europe technique, technocratique, économique, même s'il y a eu des affaires, comme vous l'avez dit, des passages sur la finance et l'emprunt, etc. Mais ce qui était intéressant, c'était effectivement presque, j'allais dire, la fibre gaullienne, je veux dire par là, pour ceux qui ont lu il y a longtemps les chaînes qu'on abat, où Malraux imagine un discours avec De Gaulle, avec des choses assez vraies. De Gaulle dit à un moment donné, regardez Malraux, l'Europe en train de mourir, c'est pas tous les matins qu'on voit ça, elle meurt, et derrière arrive la civilisation atlantique. Et donc, c'est vrai que cette idée d'une Europe qui a voulu être américaine ou ressembler à l'Amérique, mais elle n'a pas justement cette puissance. Et je pense qu'effectivement, dans le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, il y avait cette idée presque incantatoire de redevenir une puissance. Mais comment ? Qu'est-ce que c'est qu'une puissance ? Une puissance, elle déclare la guerre ou elle fait la paix. Vous vous souvenez du fameux mot de Nixon, plutôt de Kissinger. L'Europe, quel numéro de téléphone? C'était en 1970. Donc, on savait pas, finalement, où était, à qui s'adresser. Est-ce qu'il y avait un leadership? Donc, ce que nous dit Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement, cette puissance ne peut exister qu'avec la souveraineté sur laquelle il avait déjà beaucoup parlé, en 2017 à la Sorbonne. On voit bien que cette souveraineté, elle est disputée ou discutée entre des États-nations, et puis ceux qui considèrent comme lui que la souveraineté doit monter aux instances européennes, pas nécessairement démocratiques. D'ailleurs, j'ai pas compris que c'était les peuples européens qui devaient avoir la souveraineté, mais c'était plutôt les gouvernements entre eux qui devaient être encore plus souverains. Donc, on voit bien que la faille qu'il y a entre une souveraineté du haut et celle que pourrait être celle des peuples. Et pour finir,
c'est une souveraineté qui peut s'accompagner d'un bon fédéraliste, en tout cas d'un bon d'intégration.
Alors, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il reprend des idées très anciennes qui remontent. Alors, je vais pas être pédant devant Bertrand Badie qui en sait mille fois plus que moi sur ça, mais depuis Jean Bodin, depuis Rousseau, Hobbes, l'idée de la souveraineté qui est une inaliénable, inaltérable, etc., et absolue et perpétuelle, il y a eu après, à partir du XVIIe siècle, mais avec les fédéralistes américains en effet, il y a eu cette idée d'une souveraineté partagée. Mais alors on la partage comment, cette souveraineté? Donc c'est quelquefois la question et le malheur, ou la réponse et le malheur de la question.
On va vérifier tout de suite si Bertrand Badie en sait beaucoup plus que vous, Éric Fautorino. Vous en avez pensé quoi, vous, de ce discours?
Mais j'ai pensé d'abord que c'était une belle dissertation. Le président de la République sait faire des dissertations, c'est normal, il a été à bonne école. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait remarquable. Je partage le point de vue d'Éric, c'est-à-dire ça aurait été un petit peu plus synthétique, c'eût été encore meilleur. Mais ce que je
ça voudrais... c'est le prof qui parle.
Je ne sais pas. Le prof il est retraité de toute manière, mais effectivement ça sert de
prof jour, prof toujours.
Ceci étant, moi ce qui me frappe dans cette dissertation, c'est tous les risques pris et finalement un écho assez décevant à ces risques. Il avait mis la barre très haut, c'est-à-dire cette conférence était annoncée depuis fort longtemps. Il se trouve que j'étais sur le boulevard Saint-Germain quelques minutes avant et j'entendais toutes ces sirènes de voitures qui brûlaient, grillaient les feux rouges pour pouvoir se rendre à cette conférence. C'était vraiment la grand-messe, comme on en voit finalement assez peu et qui contraste de plus en plus avec le genre démocratique, c'est-à-dire cette façon, je dirais, plus directe et plus égale de monter les débats. Et deuxième risque, peut-être, c'est que un discours à plus 7 ans, c'est différent d'un discours initiateur. Moi, j'avais beaucoup aimé le discours de 2017 parce que il avait employé un verbe très juste, tout à fait pertinent, qui est celui de refonder. Et pour un président qui commençait son mandat, c'était une belle piste. C'était une belle piste de décollage. 7 ans après, ça fait déjà moins convaincant parce que on s'aperçoit que pendant 7 ans il s'est pas passé grand chose, que sur bien des points tout ce qui avait été annoncé ne s'est pas réalisé.
Donc il y a quand même des éléments de souveraineté qui ont été avancés. Alors peut-être que ce sont
là,
des circonstances internationales.
Vous voulez me titiller et ma riposte va être forte.
Le plan de relance. Alors on va voir pour la riposte. Le plan de relance après le Covid, le Green Deal, le pacte migration et asile, tout ça, ça c'est quand même assez cohérent avec ce que disait Emmanuel Macron en 2017.
C'est pas ce que l'on appelle refonder. Vous faites là allusion à des décisions, à des choix qui ont été positifs, mais que je ne classerai pas dans la catégorie des choix refondateurs. Refondateur, ça veut dire imaginer une institution rénovée, actualisée, adaptée à l'environnement. Donc là, il y a déjà quelque chose qui gêne, et on y reviendra peut-être. Mais surtout, ce sur quoi je voudrais insister, le troisième risque, c'est d'avoir opposé de façon assez surprenante des concepts irréels à des réalités dont il n'a pas parlé. Les concepts irréels, c'est ces deux concepts de souveraineté et de puissance. Je rejoins par une autre voix ce que vous disiez il y a un instant. La puissance, d'abord, elle est de plus en plus difficile à définir, elle est de plus en plus efficace. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a muté en impuissance ou est-ce qu'elle a de moins en moins de prise sur la réalité? C'est toute une réflexion en amont qu'il conviendrait de monter. Et de ce point de vue-là, la puissance américaine est au moins aussi prise à défaut que la puissance européenne. Mais c'est surtout l'idée de souveraineté qui me gêne. C'est l'idée de souveraineté parce que, effectivement, ce concept de souveraineté s'accorde de moins en moins avec les paramètres nouveaux de la mondialisation. La mondialisation, c'est fondamentalement l'interdépendance. Le grand problème de l'Europe, Hervé, le grand problème de l'Europe, c'est l'interdépendance face à la mondialisation. La grande faiblesse de l'Europe, c'est cette attitude de déni à l'égard de la mondialisation. L'Europe a fondé le système international, a tendance à considérer qu'elle est seule au monde. Et tout ce problème d'interdépendance rejaillit. Quand on parle de souveraineté alimentaire, je tombe de ma chaise, et je tombe souvent de ma chaise. Parce que où va-t-on planter le cacao? Où va-t-on planter le café? Où va-t-on planter les bananes? Où va-t-on, quand il est question de souveraineté énergétique, découvrir de l'uranium ou du pétrole en Europe? Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser un corps politique aujourd'hui à travers l'idée d'une souveraineté dans l'espace international, mais au contraire en pensant, et c'est là qu'on refonde, l'interdépendance par rapport au reste du monde. Et les grandes questions, le rapport de l'Europe au reste du monde, le problème des solidarités nouvelles qu'il convient de construire à l'intérieur de l'Europe comme de l'Europe vers le reste du monde, n'a pas été même effleuré dans ce discours. Et c'est là, peut-être, que vient ma frustration qui commence, semble-t-il, à vous frustrer, à voir l'impatience.
Oui, parce que j'agite un stylo à chaque fois pour voilà. Bertrand Badic. Attention, il faut écouter, par exemple, Magali Lafourcade. Alors, restons justement, tiens, sur cette idée de souveraineté européenne. Peut-être aussi que cette idée, elle s'adosse à des spécificités qui sont propres donc à l'Europe. Je cite Emmanuel Macron, « Être européen, c'est défendre une certaine idée de l'homme qui place l'individu libre, rationnel et éclairé au-dessus de tout. » Je me suis dit que ça, pour la secrétaire de la CNCDH, ça devait vous intéresser.
Oui, bah alors effectivement, il a fini là-dessus, donc c'était aussi une conclusion. Mais quand on regarde l'économie générale du discours, je rejoins Bertrand Badi, il a parlé quand même très peu des partenaires. Quand il a parlé de la Chine et des USA, c'était quand même aussi en prenant des risques. Mais globalement, je crois qu'on peut reconnaître à ce président que c'est peut-être un des rares présidents qu'on ait eu qui n'a pas l'Europe honteuse. Il a été élu en marchant sous l'hymne de l'ode à la joie. Il a parlé d'Europe très tôt. Et s'il y a bien une cohérence, une constance chez lui, c'est d'avoir une vision pour l'Europe, de l'Europe souveraine, l'Europe puissance. Et ça, on peut reconnaître que c'est quelque chose de très cohérent chez lui. Après, il y a eu des succès qu'on peut peut-être aussi dire que c'était aussi à les circonstances. Et pour rejoindre Bertrand Badi par rapport à l'aspect refonte, par exemple sur le Covid. Maintenant, personne ne peut dire que l'Europe n'a pas été la bonne échelle pour traiter la question du vaccin. Pour autant, on n'a pas créé d'Europe de la santé, alors qu'on aurait pu. Donc il y a quelque chose qu'il faut penser aussi au niveau des transferts de compétences, au niveau du fédéralisme, au niveau des institutions pour qu'elles fonctionnent mieux, d'éviter une bureaucratisation qui soit inutile, mais au contraire d'aller vers quelque chose qui soit plus puissant. Et c'est pas ça qui ressort du discours. Comme le disait Eric Fotorino, on était dans quelque chose plutôt de l'intergouvernemental, de cette souveraineté telle qu'on la projetterait un peu dans une Europe qui serait la France en grand. Alors que on aurait pu attendre quelque chose de plus politique finalement, ou de plus innovateur sur ce plan-là. Et puis moi je remarque aussi quand même autre chose, c'est que c'était aussi un discours qui s'inscrivait dans un calendrier particulier où il y avait un enjeu tactique de mobilisation d'un socle électoral qui a énormément de mal à se mobiliser parce qu'il y a aussi d'autres pro-européens, je pense à Raphaël Glucksmann, qui prône aussi une Europe forte. Et l'enjeu de la dramatisation autour de l'Europe mortelle, c'était bien joué, mais c'est la ficelle est un peu grosse quand derrière on voit un président qui a quand même eu aussi une diplomatie un peu erratique parfois, des coups d'éclat un peu permanents, et qui n'a pas su très bien traiter ses partenaires européens.
Quand vous dites que la ficelle est un peu grosse, ça veut dire que vous considérez que parler de justement de possibilité d'une Europe qui pourrait mourir, c'est quelque chose de beaucoup trop alarmiste, c'est-à-dire ça ne s'appuie sur rien de réel aujourd'hui.
Il dit, notre Europe est mortelle, elle peut mourir et cela se joue maintenant. Je cite les propos d'Emmanuel Macron. Quand il dit ça se joue maintenant, on est vraiment dans quelque chose qui vise à créer un sursaut et un effet de souffle. L'effet de souffle dans un pays qui va pas très bien sur le plan économique, qui va pas très bien sur le plan démocratique et en plus qui n'a pas su se créer des alliés très forts, la France et l'Allemagne, c'est plus tout à fait le couple d'antan, et qui en plus a été un des pays fossoyeurs du pacte vert alors que c'est un des grands enjeux actuels, ben ça manque un petit peu de sincérité, je dirais, parce qu'on est dans ce calendrier politique.
Thomas Gomard.
Bon, moi, je serais probablement, pour animer le débat, moins sévère que les intervenants précédents, parce que je crois qu'il y avait deux dimensions dans le discours de la Sorbonne. D'abord, effectivement, à 7 ans de distance, la prise de conscience des transformations extrêmement rapides, profondes du système international, en défaveur des Européens. Je pense que c'est là-dessus que le président de la République a insisté. C'est-à-dire que, rappelez-vous, en 2017, le sujet principal, c'était le Brexit. Bon, ce qui semble très anecdotique par rapport à ce que vous avez rappelé en introduction, comme la crise sanitaire, la guerre d'Ukraine, ou l'évolution de la relation entre la Chine et les États-Unis. Donc il y avait une dimension clairement intérieure dans un moment où Jordan Bardella est à plus de 30% dans les sondages et que la liste de Valérie Ayer est en dessous de 20%. Et que on peut dire effectivement que la souveraineté est un concept inopérant, mais en réalité, les forces politiques qui ont la dynamique, et pas qu'en France, ce sont des forces politiques qui défendent la souveraineté. Bon. Et donc, on peut pas, à mon avis, balayer ça en disant c'est pas pertinent pour penser le monde, alors même que c'est en train de créer un effet très fort et qu'on aura un Parlement européen, d'une certaine manière, beaucoup plus transactionnel, beaucoup plus souverain, parce que les gens qui vont être élus croiront de moins en moins dans le supranational. Le deuxième point, c'est la dimension extérieure du discours d'Emmanuel Macron. Alors, il y a peut-être un effet effectivement de répétition. Il y a la forme de la communication présidentielle qui est ce qu'elle est, qui suscite des critiques justifiées. Mais force est de reconnaître que quel autre dirigeant européen aujourd'hui est capable de produire un discours de cette nature ? J'ai du mal à l'identifier. Donc on peut se dire c'est exagéré, c'est très français. Oui, c'est très français dans le style. Je pense que ça hérite beaucoup peut-être à certains égards pour cette raison. Mais je ne vois pas d'autres malheureusement pas d'autres voix et pas de voix qui répondent à cela. C'est-à-dire que pour l'instant Olaf Scholz a répondu par un tweet aimable, alors même que le constat à mon avis qui est fait par le président de la République est un constat juste. Alors, c'est pas un discours mortifère, parce que il a essayé d'ouvrir des perspectives, mais c'est un constat juste sur le rapport de force qui devient, encore une fois, très très défavorable aux Européens. Son discours s'est articulé autour de 3 volets. La puissance, alors là aussi, on peut dire puissance, impuissance, tout cela est vain. Moi, ce que j'observe, c'est que la puissance, c'est un portefeuille de ressources, c'est une capacité de passage à l'acte, et que si les Européens se considèrent impuissants, d'autres dans le monde ne se considèrent pas du tout impuissants, et que la souveraineté et la puissance est au cœur de l'action extérieure de la Chine, est au cœur de plus en plus de l'action extérieure de l'Inde, est au cœur de l'action extérieure des États-Unis, et que donc on peut dire, au fond, tout cela, c'est une vue de l'esprit. En réalité, c'est peut-être une vue de l'esprit pour les Européens, mais les autres y croient. Et donc, il y a effectivement d'autres pays qui ne sont pas dans ces changements de paradigme, pour parler comme le président de la République. Mais je pense que le discours servait surtout à alerter les Européens sur les transformations fondamentales compte tenu de l'évolution de la relation entre la Chine et les États-Unis d'une part, compte tenu de l'attitude adoptée par la Russie depuis 2014, beaucoup plus d'une certaine manière que les enjeux liés à l'agenda global. Peut-être que ce qui a manqué dans ce discours, c'est l'agenda global, ça je le soulignerai bien volontiers. Mais on a l'agenda global, qui n'est peut-être pas traité dans le discours, mais on a aussi, encore une fois, une déformation du système international par des logiques de puissance et au détriment des Européens, qui est au cœur du discours. Le deuxième point, ça a été la prospérité. Et je pense que ce qu'il dit sur le marché unique est une tentative de réponse aux deux rapports importants faits par des Européens, c'est-à-dire le rapport Draghi, qui n'est pas encore finalisé, et surtout le rapport de Enrico Letta sur le marché unique. Et puis la troisième partie sur l'humanisme européen, alors peut-être un peu grandiloquente, avec toujours les références présidentielles à Rensteiner, etc., très bien, mais sur la manière dont l'espace numérique sur lequel nous passons nos journées n'est pas régulé, ou est aujourd'hui une sorte de Far West, à mon avis, mérite effectivement considération, et les pistes que le président a ouvertes me semblent pertinentes.
Il y a quand même un certain nombre, effectivement, de propositions qui sont faites par Emmanuel Macron, Éric Fotorino. Alors j'évoquais au début de l'émission cette idée d'un grand emprunt européen, par exemple, pour investir dans le militaire. On ne peut pas reprocher au président de la République l'absence de ces dispositions. Il n'est pas seul à la tête de l'Europe, donc ça dépend aussi de la volonté de ses partenaires.
Oui, et c'est vrai, et d'ailleurs sur ce point précis, on a bien vu pendant la crise du Covid que vous évoquiez tout à l'heure qu'on a pu lever 750 milliards d'euros, ce qui était improbable, et que l'Allemagne a accepté, et jusque-là on n'aurait pas eu cet accord-là. D'ailleurs, c'est un élément intéressant, c'est qu'on a le sentiment que quelquefois l'Europe avance non pas par choix, mais par contrainte. C'est sous la contrainte qu'elle s'invente, ou qu'elle se consolide, ou qu'elle, je ne sais pas si elle se refonde, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas qu'elle avance. Sur le plan militaire, en effet, c'est très important, et c'est d'autant plus important que là, il y a une symbolique très ancienne. On se souvient de l'initiative de la CED au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et qui avait achoppé, on disait « je cède, tu cèdes, il cède ». En France, ça avait créé un débat terrible, parce que finalement, on ne voulait pas que la RFA à l'époque se réarme. Maintenant, on a bien vu que les temps ont changé, et qu'il y a un horizon militaire que propose Emmanuel Macron. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est important, je ne sais pas s'il sera suivi, mais je pense qu'en effet c'est important. Vous savez, il y a un autre point sur le numérique que vous évoquiez à l'instant, il parle de l'intelligence artificielle. Si on admet que l'intelligence artificielle, c'est une grosse machine qui est nourrie, en gros, par des informations anglo-saxonnes et des informations chinoises, on peut se dire que si tout ça, cette grande addition donne la culture, une culture mondiale, où sera la culture européenne? Donc effectivement, il est très important que l'Europe, de ce point de vue-là, de l'intelligence artificielle, soit vraiment au rendez-vous, ce qui n'est pas le cas, à part peut-être une ou deux sociétés en Europe. Donc là, je pense qu'il a touché juste dans les mots qui pourraient toucher l'Europe et les pays qui la composent. Et pour terminer, justement, dans ce Zadig, ce trimestre, nous avons fait une rencontre avec Wim Wenders, qui est un cinéaste allemand, et qui raconte que pour lui, après la guerre, il cherchait son Heimat, son chez-soi. Et pour lui et pour sa génération, le Heimat ne pouvait pas être un pays qui avait eu son passé, qui n'existait plus en tant que historique, mais c'était le rêve européen. L'avenir ne pouvait être qu'européen. Et donc, ce que nous dit Emmanuel Macron d'une certaine manière, c'est un, que notre avenir, c'est maintenant qu'il faut, c'est voilà, elle est en danger maintenant, la mortalité, le côté mortifère est maintenant, et que probablement que ce Heimat dont parle Wim Wenders, c'est quelque chose, c'est un toit d'une maison à l'abri duquel nous devrions nous installer, à la fois non seulement pour nous défendre, mais aussi pour façonner ce qui peut l'être face aux États-Unis, face à la Chine et aux grandes puissances, à la Russie, aux grandes puissances.
Mais ça, c'est peut-être davantage un vœu qu'une réalité partagée par le plus grand nombre aujourd'hui. Bertrand Badi, vous vouliez réagir?
Oui, notamment à ce que disait Thomas et aussi ce que vient de dire Eric, dans ce débat amical que nous avons régulièrement, il faut voir une chose, c'est que le couple souveraineté-puissance, c'est un couple qui historiquement a été inventé par l'Europe et qui a été la marque permanente de l'Europe, des États européens, depuis la Renaissance. Ce couple a marché ou n'a pas marché, ça c'est un autre débat, il ne marche plus aujourd'hui. Donc moi, ce qui me surprend, c'est que quand on se projette dans l'avenir et que l'on veut créer un nouveau rêve européen, au sens positif du terme, l'utopie, cette utopie créatrice, si vous voulez. Il faut changer de logiciel. Alors évidemment, Thomas a tout à fait raison de dire, mais ceux qui vont gagner les élections risquent d'être pratiquement en majorité des souverainistes et aussi des tenants de la puissance. Mais oui, mais c'est très dangereux de construire l'art politique sur l'imitation anticipée de ceux qui vont gagner. je pense que l'art politique, il est dans l'innovation, il est dans l'invention.
Mais pardonnez-moi Bertrand Badie, mais est-ce que la puissance, ça n'est pas la condition quand même de la souveraineté? C'est-à-dire que plus on est puissant, plus on a la possibilité d'être souverain. Alors, sauf à considérer que la souveraineté, c'est quelque chose qu'il faut écarter.
Oui, alors, premièrement, il faut revoir ce que souveraineté veut dire aujourd'hui, et c'est peut-être justement parce que l'on n'a pas su reconstruire le terme de souveraineté que l'on reste habité par la vieille conception de la puissance. La vieille conception de la puissance, elle a été mise en échec pratiquement partout depuis 1945. Faut pas l'oublier. Mais quand vous évoquez, Thomas, la Chine, c'est vrai que la Chine se targue de souveraineté et puissance, mais au nom d'une toute autre histoire. Précisément parce qu'elle était privée et de cette souveraineté et de cette puissance et qu'elle a fait de la reconquête de l'une et l'autre son étendard. Mais si vous regardez la réalité, la Chine a été beaucoup plus inventive que l'Europe pour concevoir son rapport à l'énergie, son rapport à l'alimentation. Personne en Chine ne prétend qu'il y a une souveraineté alimentaire de la Chine ou une souveraineté énergétique de la Chine. Au contraire, la Chine ne cesse de dire que c'est dans son rapport au monde, le Tianxian, que elle reconstruira son développement, puisqu'elle parle toujours de développement, et la satisfaction de ses besoins énergétiques et de ses besoins alimentaires. Ce qui me frustre, c'est que rien n'est fait pour articuler cette Europe, autrefois centre du monde, voire monopole du monde, en complément des autres parties du monde dont on connaît l'ascension. C'est ça le vrai sujet, il n'y en a pas d'autre.
Mais peut-être que le reste du monde n'a pas très envie d'avoir ce schéma-là,
non ? Non, le reste du monde n'a pas envie de voir se maintenir la vision de verticalité que l'Europe a sur le monde. Mais le reste du monde n'a demandé, je vous renvoie dès la conférence d'Alger en 1967 et l'idée de nouvel ordre économique international à une redéfinition entre toutes les parties anciennes et nouvelles du monde des conditions de la globalité. On a inventé la mondialisation, moi je suis né avant la mondialisation, je suis pourtant pas vieux, je suis né avant la mondialisation et je vais mourir dans la mondialisation. On a complètement réinventé ce monde sans rien changer de nos concepts et de nos catégories. C'est absolument incroyable. Et c'est là que finalement, il ne peut pas y avoir de refondation.
Thomas Gomard.
Bon, c'est la continuation de ce long débat. Une opposition assez fondamentale, c'est-à-dire que moi je considère que ce que l'Europe est en train de vivre depuis, on va dire, l'agression russe de l'Ukraine de 2014, on va dire de 2022, est comparable en intensité et en transformation de ce qu'elle a connu entre 89 et 91. C'est-à-dire que le système international se transforme extrêmement rapidement, extrêmement profondément, et ça se fait au détriment des Européens. Là où je suis en désaccord fondamental avec Bertrand, c'est que il voit la souveraineté comme un concept du passé. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que derrière la souveraineté des autres, j'ai pas du tout la même lecture optimiste de la trajectoire prise par la Chine. Quand je vois le discours chinois vis-à-vis de Taïwan, par exemple, j'y vois une volonté de puissance tout à fait manifeste. Je pourrais multiplier les exemples avec l'Inde. Et ce que j'essaie de dire, c'est que je ne sais pas ce que le reste du monde pense, très franchement. En revanche, je pense être capable d'interpréter la politique chinoise, la politique de l'Inde, par exemple, ou celle des États-Unis, telle qu'elle s'exprime aujourd'hui. Et ça se fait aux dépens des Européens, parce que l'Europe est en train de devenir un terrain de jeu de la rivalité de puissance, en particulier entre la Chine et les États-Unis.
Avec un risque aussi pour son intégrité territoriale à l'Europe, puisque dans les projets qui sont avancés en termes de défense, alors a été évoqué, tout en disant Emmanuel Macron, bon c'est juste une piste, on n'est pas obligé d'adhérer à ça, mais cette idée d'un dôme de fer, d'un système antimissile aérien pour l'Europe, c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, il faut aussi se dire l'Europe peut être menacée dans son intégrité territoriale. C'est comme ça qu'il faut penser à la chose.
Évidemment, c'est-à-dire que le scénario de ce qui serait perçu, à tort ou à raison, comme un succès russe en Ukraine, traduirait une forme de neutralisation de l'Europe, parce que la Russie se retrouverait sur le plan bilatéral, au fond, dans une position de force par rapport à l'ensemble des pays européens pris indépendamment. Et que donc, oui, il y a un débat stratégique qui est aussi un débat industriel. Dans la proposition du président Macron, il y a cette dimension-là. Il y a un débat stratégique qui est extrêmement délicat aujourd'hui entre France et Allemagne, parce que, d'une certaine manière, l'Allemagne a anticipé la construction d'un système antimissile, le fait avec un partenariat intérêts avec les États-Unis, avec Israël, et que dans la volonté française, le président de la République l'a rappelé, il considère que l'armée française doit être la plus efficace. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire sur le plan européen, mais il y a une volonté d'exercer un leadership en la matière.
Bon, pour boucler la boucle, Éric Fotorino, sur ce sujet, Zadig, rêver l'Europe, près de 200 pages, donnez-nous une raison quand même que vous avez trouvée dans votre trimestriel de rêver l'Europe, d'être un peu optimiste quand même par rapport à ce projet européen.
Alors, je vais vous répondre, mais juste quand même sur ce que disait Thomas Gomard, qui est très intéressant. Imaginons que demain, la Russie attaque les Pays-Baltes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elle est capable de faire, l'Europe? Quelle réponse elle peut avoir? Donc ça, c'est pas une question théorique. Alors, je sais pas si c'est un vœu de Poutine. Mais quand même, concrètement, qu'est-ce qu'on ferait si on était face à une hypothèse comme celle-là? Je ne sais pas. Pour vous répondre, oui, vous savez, on a revisité notamment avec François Bunel les grands mythes européens, la grande mythologie européenne qui nous montre que la tradition d'accueil de l'Europe, qui va jusqu'en Asie mineure, qui va jusqu'en Ukraine, Éric De Luca nous apprend que Sole Mio a été écrit à Odessa, a été écrit sur la mer Noire. Donc, si vous voulez, tous les mythes européens montrent que l'Europe n'est pas blanche, elle est mélangée, il y a tout ça. Et donc, je pense qu'elle a dans son ADN, si on peut parler comme ça, de génétique, quelque chose qui est très pluriel et très différent, justement, de la Chine, des États-Unis, de toutes ces... Et donc, je pense que c'est cette singularité européenne qui donne envie, évidemment, de défendre, mais pas seulement de défendre, mais de mettre en lumière pour le reste du monde.
France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
When I look at some of the things that we're doing now, I think that
lorsque je regarde certaines des mesures que nous prenons actuellement au nom des conservateurs, je pense qu'elles sont absolument insensées. Nous interdisons les cigares. Peut-être pensez-vous tous que c'est une excellente idée. Comment le parti de Churchill peut imaginer interdire le cigare? C'est de la folie.
Winston, réveille-toi, ils sont devenus fous. C'est en quelque sorte le message adressé par Boris Johnson, que vous venez d'entendre, à son illustre prédécesseur, le saint patron des conservateurs britanniques, grand consommateur de cigares. Churchill, donc, appelé à la rescousse pour s'opposer à la loi anti-tabac que viennent de voter les députés du Royaume-Uni. Une loi qui reste encore à être définitivement adoptée. Si c'est le cas, elle conduira à interdire la vente de tabac à tous les Britanniques nés après 2009. Interdiction à vie, ils ne pourront plus acheter légalement de cigarettes. Objectif à terme, éradiquer le tabac dans le pays. Il est de notre responsabilité de protéger la prochaine génération. Il n'y a pas de liberté dans l'addiction. C'est justifié la ministre de la Santé britannique à l'ouverture des débats au Parlement. Alors, nous protéger de nos addictions, c'était aussi l'intention d'une proposition qui a fait du bruit le mois dernier, celle de Najat Vallaud-Belkacem, à propos de nos usages numériques. Dans une tribune intitulée « Libérons-nous des écrans, rationnons Internet », l'ancienne ministre de l'Éducation suggère de limiter notre consommation à 3 gigaoctets par semaine, histoire de nous désintoxiquer, l'abus d'écran ayant des effets néfastes pour notre santé. Ces mesures de salubrité publique partent d'une bonne intention, protéger les individus de comportements qui peuvent leur être préjudiciables. Rien de nouveau, le port obligatoire de la ceinture de sécurité, par exemple, autrefois perçu comme une atteinte aux libertés individuelles, est devenu un réflexe, alors que le fait de ne pas respecter cette obligation ne met pas en danger d'autres personnes que soi-même. Pour autant, est-ce à l'État de décider ce qui est bon pour nous à notre place ? N'y a-t-il pas une forme d'infantilisation, de moralisation de nos comportements individuels? Et ce sont les questions que je vous pose, Magali Alfourcade, peut-être en commençant alors par cette loi qui n'est pas, je le disais, encore définitivement adoptée, mais de dire, voilà, on va interdire progressivement et à vie la vente de tabac aux Britanniques. Est-ce que c'est une bonne idée parce qu'il y a des impératifs de santé publique qui justifient une mesure aussi radicale?
En fait, le sujet, il concerne la question de l'ingérence de l'État dans les libertés individuelles. Alors, il n'y a pas de liberté fondamentale à fumer. C'est pas un droit de l'homme, le fait de fumer. C'est comme il n'y a pas de liberté fondamentale à prendre l'avion. C'est pas un droit de l'homme. Le droit de l'homme, c'est le droit d'aller et venir.
D'aller et venir au bureau de tabac, par exemple.
Oui, on peut dire ça. Mais donc, l'ingérence de l'État dans les libertés individuelles, s'il est pour un but légitime, et là c'est un objectif de santé publique, il y a un coût pour la société en termes de dépenses de santé, des morts prématurées, des arrêts de travail, etc. Donc, il y a une mise en balance des intérêts. Dès lors qu'on le passe au crible, hein, des critères qui sont retenus par toutes les juridictions qui s'appuient sur les droits de l'homme, à savoir la légitimité de l'atteinte de l'ingérence dans la liberté individuelle, et de vérifier que c'était nécessaire, proportionné au but poursuivi, au but légitime poursuivi et non discriminatoire, dans ce cas, c'est tout à fait, ça peut être quelque chose qui a un équilibre recevable. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est juste ? Parce qu'on sait bien qu'on risque de développer un marché noir, on sait bien que ça va toucher les plus pauvres. Or, le tabac d'aujourd'hui n'est pas le tabac tel que l'État le commercialisait lui-même il y a une cinquantaine d'années, ou plus que ça. On a aujourd'hui des produits qui sont extrêmement nocifs, qui sont ajoutés à dessein pour créer de l'addiction. Et donc, la liberté de consommer du tabac, c'est plus tout à fait ça. C'est vraiment quelque chose qui est fait par les industriels pour qu'on ne puisse pas arrêter de fumer. Et je le dis d'autant plus que je suis une ancienne fumeuse et que je sais combien c'est difficile d'arrêter.
Est-ce que c'est juste, d'ailleurs aussi, si on reste sur le cas britannique, ça crée aussi deux catégories de citoyens, puisque selon que vous serez né avant ou après 2009, vous aurez le droit de continuer à acheter du tabac ou bien et ça sera interdit.
Ça pose le principe d'égalité des citoyens devant la loi. Mais en fait, les ingérences de l'État dans les libertés individuelles, elles ont de sens. Il y a très peu de droits qui sont absolus. Il y en a quelques-uns, comme l'interdiction de la torture, l'interdiction de l'esclavage, il y en a 4 ou 5, hein, mais tous les autres droits les plus fondamentaux, ils sont sujets à limitation. Les droits humains, ce n'est qu'un sujet de limite, de borne. Et la question, c'est pourquoi on met des bornes ? Est-ce que c'est pour des sujets d'ordre public, comme quand on avait parlé d'obligation vaccinale, ou est-ce que c'est pour des sujets de droits d'autrui ? Ma liberté d'expression est limitée par le fait que je ne peux pas vous insulter, Hervé Gardette. Voilà, donc c'est aussi ces limitations-là. Et donc la question, c'est aussi de renvoyer vers le débat démocratique. Il faut que ces débats-là, qui sont sur des équilibres subtils, donnent lieu à une démocratie vivante pour que tout le monde puisse s'exprimer dessus.
Est-ce qu'il n'y a quand même pas aussi une forme d'infantilisation à travers ces mesures ? Alors, oui. J'évoque le cas britannique. Je parlais aussi donc de cette proposition qui n'était faite d'ailleurs que pour alimenter le débat. Hein. Najat Vallaud-Belkacem n'étant plus au pouvoir, il y a peu de chances que ça avance. Mais donc de limiter le nombre de gigaoctets qu'on pourrait consommé par semaine, Eric Fotoreno, c'est-à-dire qu'à trop laisser intervenir l'État, est-ce qu'on n'infantilise pas, est-ce qu'on ne déresponsabilise pas les gens ?
Ah ben ça c'est sûr, mais je dois vous dire que lorsque j'ai vu ce sujet, que nous parlions de ce sujet, j'ai cru que je n'avais pas compris en fait. Je me suis dit non, c'est pas possible qu'on interdise de fumer à des jeunes, même si évidemment c'est pas bien de fumer, mais on n'est pas sur le plan moral, il y a un plan sanitaire, etc. Donc je me suis dit, mais comment un État peut-il avoir cette idée ? On peut limiter, mais interdire c'est quand même très très fort. Et ce que dit Najat Vallaud-Belkacem sur les écrans, je suis plus sensible à l'idée que c'est un lieu de non-droit où on peut insulter, on peut faire, et là il faut que le droit rattrape ces espaces-là, mais limiter, là je pense qu'on est dans une idée qui est, en effet, nous sommes tous de grands enfants qu'il faut prendre par la main, et ça me rappelle, vous savez, cette affiche de Jacques Tati dans le métro, on le voyait sur son Solex, on lui avait enlevé sa pipe parce qu'il fallait pas montrer qu'il fumait, parce qu'autrement c'était abominable. Donc là je pense effectivement qu'on nous prend pour... et même des enfants, enfin un enfant ça peut être responsable, mais ce que je veux dire c'est que je ne comprends pas l'ingérence que l'État peut avoir jusqu'à ce point, même si j'entends ce que vous dites, Magali, c'est qu'en effet c'est pas des droits fondamentaux, le droit de fumer n'est pas un droit fondamental, mais c'est plus l'idée qu'on a des libertés, de sa propre liberté individuelle. Alors je sais bien que vous voyez, quand moi je n'achète pas de paquet de cigarettes, mais qu'il y a des photos épouvantables sur ce qui peut vous arriver à la gorge, aux poumons, etc. Je ne comprends pas que l'État aille jusque-là.
Mais est-ce que c'est pas justement une mise en cohérence ? C'est-à-dire, quand on voit que les paquets de cigarettes aujourd'hui, avec des photos absolument horribles, et c'est écrit « fumais-tu ? Ouais. Si fumais-tu, pourquoi ne pas l'interdire ? » Ça paraît plus cohérent, non ?
Oui, mais parce que vous savez très bien que c'était un médecin suisse, c'est les Paracels, qui disait « rien n'est poison, tout est poison, le poison c'est la dose ». Donc effectivement, interdire catégoriquement quelque chose qui en fait, en effet, moi j'aime la tarte aux framboises, si j'en prends 10 tous les jours, peut-être que ça va pas aller très fort. Donc, si vous voulez, je pense que là, il y a la responsabilité individuelle, le discernement individuel, je pense pas qu'il passe par une injonction de l'État.
Bertrand Badi ?
Oui, d'un certain point de vue, je trouve qu'il y a un lien entre notre thème précédent et celui-ci, qui est ce rapport extrêmement complexe au global. C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord pour considérer qu'il y a un problème de liberté, et on peut y revenir, mais il y a surtout un rapport de plus en plus difficile à gérer de l'individuel au global. C'est-à-dire que de plus en plus, l'acte individuel est évalué, apprécié, considéré en fonction de ce qu'il apporte ou n'apporte pas, de ce qu'il dérange ou il ne dérange pas dans la collectivité tout entière. Alors, l'idée d'intérêt général, qui est ancienne, l'idée d'intérêt national, s'était construite là-dessus. Mais cette idée classique, elle était doublement limitée. D'abord parce que on n'allait pas au-delà du national. Et les intérêts nationaux étaient censés être concurrents. Maintenant, on s'aperçoit que pour traiter les problèmes de santé, pour traiter les problèmes climatiques, la notion d'intérêt national, elle n'a plus grand sens. Pour traiter du problème de l'informatique, par exemple, le niveau national n'est plus significatif. On ne peut prendre en compte sérieusement, efficacement, que le niveau global. Et d'autre part, parce que l'intérêt national est tel qu'il était classiquement défini, ne portait pas atteinte véritablement à la liberté individuelle, ou seulement dans des cas extrêmement précis. Aujourd'hui, on s'aperçoit que tout acte commis par un individu, tel l'effet papillon, rejaillit sur le monde entier. Ce qui pose une question de gouvernance, qui est la même que celle de tout à l'heure. C'est-à-dire, l'Europe ne peut plus décider toute seule, et de même, l'individu consommateur ne peut plus décider tout seul s'il mange, et combien il mange de tarte aux framboises, ou fume de cigarettes.
Mais alors, qui décide ?
Alors, eh bien, c'est justement là le grand mystère du politique. C'est là que la refondation aurait fait sens, c'est-à-dire d'essayer de comprendre. Ça a été fait. On a quand même progressé à travers le mot mystérieux et souvent injustement moqué de gouvernance. C'est-à-dire cette réflexion qui n'est plus exclusivement politique, qui associe tous les acteurs dans leur propre secteur de pertinence pour délibérer de ce que pourrait être un régime de. Et beaucoup, beaucoup reste à faire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que on ne pourra réellement progresser, cette gouvernance aura vraiment son efficacité, que si elle touche les comportements sociaux et qu'elle parvient à les rationaliser pour conduire chaque individu à faire ce bout de chemin. C'est-à-dire que chaque individu apprenne à se dire « mais si je crache mon chewing-gum par terre, est-ce que je ne vais pas gêner la collectivité ? Si j'écrase mon mégot par terre, est-ce que je ne vais pas gêner la collectivité ? Si je continue à faire tourner mon moteur quand je suis à l'arrêt, est-ce que je ne vais pas gêner la collectivité ?» L'acteur individuel que nous sommes, je me mets dans le paquet, ne sait pas faire ça parce qu'on ne lui a jamais appris. Donc il y a effectivement une socialisation préalable et quand vous serez passé par l'école primaire qui vous apprendra la réalité de tous ces phénomènes agrégatifs, là peut-être que vous serez moins étonné qu'on vous interdise de fumer.
Voilà, l'individu ne sait pas faire ça ou peut-être ne sait plus le faire. C'est peut-être aussi parce que les individus ont moins le sens de l'intérêt général aujourd'hui, que l'État se retrouve à devoir prendre des mesures un peu plus restrictives parce qu'elles empiètent finalement sur l'état de santé, alors au sens large du terme, collectif, Thomas Gomard.
Oui, je crois qu'il y a un mot qui a été prononcé par Eric Fotorino qui me semble très important pour le débat philosophique qui porte en fait sur la tension entre liberté individuelle et son pendant qui devrait être la responsabilité individuelle. Qui est quelque chose d'assez difficile à identifier. À partir de quand, en fait, comment se forge cette responsabilité individuelle ? Mais ce type de décision, à mon avis, en annonce d'autres. C'est-à-dire que c'est peut-être la seule réponse, pour l'instant, à des formes, la formule de la parlementaire que vous mentionnez, que je trouve assez intéressante, pas de liberté dans l'addiction. C'est ouais. Aussi la réponse, pour l'instant, que trouvent des appareils d'État par rapport à des comportements de plus en plus borderline qu'on peut observer dans la société et qui sont probablement aussi suscités par le marketing, par du marché noir, par des tas d'éléments très très difficiles à identifier.
Ça, mais Thomas, si je suis la seule victime de mes propres addictions, en quoi est-ce que c'est à l'État de les réguler ?
Ben alors,
justement, c'est ça la responsabilité.
Oui, et justement, ça me permet de faire le lien avec l'intervention de Bertrand, parce que comme lui, je pense qu'il y a un lien entre nos deux sujets aujourd'hui, mais très différemment de lui. C'est-à-dire que, à mon avis, là aussi, on ne peut pas écarter l'intérêt national. Si vous considérez le point de vue que vous venez d'exprimer, Hervé Gardette, mais que vous, quand vous êtes malade, vous allez vous faire soigner en France, et que vous considérez normal et parfaitement justifié de vous faire soigner le mieux possible, alors même que vous avez eu un comportement qui aboutit à vous faire soigner. En fait, il y a un moment où ça rejoint le point précédent, parce que est-ce que nos systèmes construits sur une base nationale, on se fait tous soigner, on touche les pensions dans un cadre national, on est soigné dans un cadre national, combien de temps ça tient par rapport à une situation économiquement difficile, et combien de temps ça tient par rapport au fond à des gens qui vont dire « je suis global le lundi, mais quand il faut se faire soigner, je suis français parce que je dois aller me faire soigner, et le mieux possible encore une fois, dans tel ou tel... » Où est le coût en fait? Qui porte le coût final, voyez? Donc c'est pour ça qu'à mon avis, moi je vois au contraire une très très grande difficulté à venir, parce que les Européens ont développé des systèmes très sophistiqués, justement, compte tenu de leur vieillissement hospitalier, d'accompagnement, et se rendent compte qu'en fait ils vont plus pouvoir les financer. Et donc, la grande difficulté, c'est qu'on va continuer à dire « on est global peut-être », mais en réalité, quand on devra se faire soigner ou quand on devra toucher nos pensions, on se tournera vers l'État.
Magali Lafourcade.
Et oui, mais je crois que le sujet en fait pose un paradoxe assez assez intéressant, c'est-à-dire que on est là donc cette question de l'État Big Mother ou l'État nounou, alors qu'en fait on voit que on a une situation de déperdition des services publics, de difficultés pour trouver des médecins dans quantité de régions françaises, un taux de non-recours aux prestations sociales qui sont indues pour les populations les plus précaires, les plus fragiles, et qui pourraient tellement les aider, mais qui sont donc où il y a très peu de chasse finalement au taux de non-recours, alors que ce serait tellement nécessaire pour ces populations d'y avoir accès. Et finalement, ce que je trouve, c'est que dans ce sujet-là, où on aurait un peu, on pense le global et on agit local, hein, le célèbre slogan, on arrive aussi à cette question autour des quotas, par rapport à ce que vous disiez, le rationnement vis-à-vis de la crise écologique, etc., où ça nous conduit à avoir même une relecture du corpus des droits les plus fondamentaux. Et ça, je trouve que c'est passionnant. C'est-à-dire que, historiquement, on était sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, penser l'homme dans la cité. Tout à l'heure, Bertrand Badi parlait de l'individu qui n'avait pas appris, etc. Mais ça, c'est une approche très anglo-saxonne, finalement. Je ne dis pas que c'est votre vision des choses. Mais aujourd'hui, à cause de cette crise climatique et environnementale, on est amené à relire l'ensemble de nos droits et libertés à l'aune de concepts très anciens, et puis aussi de concepts qui viennent d'autres cultures, les concepts de bien commun, de patrimoine commun, de public trust, de duty of care, donc pour les populations à plus grande vulnérabilité, et que finalement il faut trouver un accommodement raisonnable entre nos revendications très individualistes, notre envie de consommer, de jouir sans entrave, etc., et ce besoin de penser nos actions dans un cadre plus global. Et finalement, je trouve que cette approche est très fertile, elle apporte beaucoup, mais il faut absolument qu'elle vienne d'une discussion démocratique.
Mais et donc, ça veut dire que, donc, pour vous, Magali Lafourcade, face à cet enjeu spécifique et absolument majeur qui est celui du dérèglement climatique, le rationnement, dans certains cas, ça peut s'envisager. Prenons un exemple, là aussi, qui a beaucoup fait débattre. Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur et qui travaille beaucoup sur ces questions, qui avait proposé de limiter à 4 vols dans une vie, la possibilité de prendre l'avion. Donc, 4 fois dans sa vie. Alors, 4 fois, ça peut être 6, ça peut être 8, je ne sais pas. Mais en tout cas, réfléchir en ces termes-là, est-ce que ça vous paraît une bonne façon de réfléchir?
Ça fait très mal au cœur à entendre. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que cette approche, on n'est pas sur les marchés de droits pollués, en quelque sorte. On est sur des quotas, sur du tirage au sort, sur des nombres clés. Toutes ces approches-là, c'est une manière de traiter la question dans la justice. Et ça, cette modalité pour pouvoir faire cet accommodement raisonnable, il faut justement que ça passe par ce débat-là. Et je trouve qu'il pose quelque chose là, moi qui me séduit pas comme ça, mais au moins, ça pose la question que ce soit pas toujours les plus riches qui puissent polluer. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui prennent jamais l'avion quand même. Et il y en a une partie d'entre nous, les plus chanceux, les plus riches, qui le prennent beaucoup.
Bon, donc, les plus riches, voilà. Ils auront peut-être acheté des droits à prendre l'avion.
Justement, si on est sur 4 par personne ou sur un quota individuel qui n'est pas un marché où on peut s'échanger tout ça, on peut envisager quelque chose de beaucoup plus juste. Et c'est cet aspect-là de restriction, de responsabilité, dans un accommodement raisonnable qui est débattu démocratiquement, on peut faire émerger des restrictions qui sont finalement très bien acceptées, très bien assumées, dès lors qu'elles sont assorties d'un sentiment de justice.
Éric Fautorino.
Oui, bon, il y a des choses vraiment très importantes dans ce que tu dis, ce que vous dites sur les accommodements raisonnables. La réflexion que ça m'inspire, c'est la suivante. D'une part, il y a l'éducation. C'est-à-dire que si on est éduqué très tôt à l'idée que la cigarette, c'est dangereux, qu'on peut en mourir, que de prendre des avions, des engins à moteur, ça pollue, etc. C'est un peu, moi, quand j'étais gamin, je faisais du vélo, beaucoup de vélo, j'avais pas de casque sur la tête. Maintenant, tous les enfants qui font du vélo, on leur met un casque sur la tête, c'est comme ça, c'est presque, ils sont presque nés avec le casque sur la tête. Donc, il y a un apprentissage de ce qui est important, en effet, pour sa propre survie, mais aussi, évidemment, pour celle, ipso facto, de la collectivité. Mais dans la loi que veulent prendre les Britanniques, tout d'un coup, ça tombe comme un couperet, et je pense que des enfants qu'on n'aura pas éduqués n'auront pas vraiment la compréhension totale de ce qui arrive. Deuxième chose, c'est ce que j'appelle moi l'écologie punitive, c'est-à-dire que quand on dit qu'est-ce que c'est une société écologique demain, c'est tout de suite des restrictions. Donc il y a ce côté punitif qui précisément n'est pas toujours contrebalancé par la capacité éducative, qui est pas seulement pour les enfants, mais pour nous tous, de bien comprendre ce qui est en jeu. Et c'est vrai que nos cerveaux sont pas équipés pour aller chercher l'état du risque réel que nous courons. C'est loin, c'est quelque chose, c'est pas nous, et etc.
Surtout quand la restriction, elle porte sur des choses qui sont présentes en abondance.
Bien sûr. On a toujours trouvé des solutions.
On n'est pas dans le rationnement, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, où là, il n'y avait pas suffisamment de ressources, donc il fallait rationner, c'était obligé.
Le troisième point, c'est sur l'acceptabilité. C'est est-ce que, lorsque des règles comme ça sont posées, quelle est notre aptitude à les accepter? Il y a des lois, comme vous savez, je ne sais plus quelle loi de Napoléon sur les femmes qui n'avaient pas le droit de porter de pantalon, quelque chose comme ça. Bon, mais c'est des lois qui sont tombées en désuétude parce qu'on ne pouvait pas les appliquer. Je serais bien curieux de savoir si en Grande-Bretagne, on pourrait appliquer une règle comme celle-là. Et puis la dernière chose, c'est ce que Thomas Gomard a évoqué tout à l'heure, c'est quand on interdit, on crée un autre marché. On crée du marché noir, on crée la prohibition. Enfin, donc on crée aussi des réseaux mafieux qui vont profiter de ça. Et donc, c'est pas nécessairement non plus ce qu'on veut souhaiter. Donc, c'est l'effet pervers de quelque chose qui serait vertueux.
Mais du coup, Thomas Gomard, est-ce que plutôt que de penser une interdiction par rapport à la demande, c'est-à-dire de dire aux gens, vous n'avez plus le droit de consommer, est-ce qu'il ne faudrait pas changer la façon de réfléchir, de se dire, on va réduire l'offre? C'est-à-dire, plutôt que de dire, on va interdire aux gens d'acheter des cigarettes, eh ben, on va réduire la possibilité de fabriquer des cigarettes. Est-ce que ça ne serait pas plus juste, pour reprendre les termes de Magali Lefourcade?
Sans doute, la réponse là, pour le coup, sera globale, c'est-à-dire que vous aurez une offre qui sera pour ce genre d'addiction produite ailleurs. Il y a quelque chose de très paradoxal de voir l'intrusion en fait de l'État partout, avec un État qui en fait a de moins en moins de moyens financiers. Je parle pour des sociétés vieillissantes comme les sociétés européennes, et avec des pans en fait qui disparaissent, et à mon avis dans lesquels vont effectivement se loger de la criminalité en fait, de la criminalité ou de l'économie parallèle. Il y a un autre aspect, si vous voulez, qui est frappant. Je pense que la très grande difficulté, c'est j'ai bien aimé les enfants portent un casque peut-être aujourd'hui, alors on peut voir ça comme un progrès, mais passent 10 heures par jour sur leurs écrans.
Donc leur protéger la tête aussi, voilà, vis-à-vis des écrans. Ça, je suis bien d'accord.
Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, à chaque époque, on peut trouver des exemples. Vous voyez, je me revenais en tête l'année 1976, 16 000 morts sur les routes en France. Bon, on doit être entre 3 000 et 4 000 avec une population qui a très nettement augmenté. Bon, le fait d'être arrivé à ce chiffre est un progrès collectif, à mon sens. Et donc, c'est passé par de la contrainte. Donc en fait, c'est ensuite l'équilibre à trouver entre... ou alors, rappelez-vous les débats qu'on avait eus sur le fait de fumer en public dans les restaurants. Bon, c'est passé assez facilement en réalité, parce que je pense que ça a été vu comme un mieux-être pour, au fond, le plus grand nombre. Et puis les fumeurs se sont adaptés.
Alors qu'on avait l'impression à l'époque que ça allait faire la révolution.
C'était liberticide, etc. Donc en fait, je pense que l'équilibre à trouver, pour moi, il est entre... ce type d'effort et qui produisent un produit collectif, et également en même temps d'accepter le risque, c'est-à-dire d'accepter que ça peut sembler paradoxal ce que je dis, mais ça l'est, d'accepter aussi une société où on n'est pas avec la double ceinture en permanence, parce que c'est pas la vie d'une certaine manière. La vie, c'est du risque.
Voilà. C'est risqué, oui.
Bertrand Badie.
Oui, moi je partage beaucoup de points qui ont été abordés. Ce que je voudrais juste, c'est revenir sur deux aspects qui peut-être sont source de malentendus. D'abord, je pense qu'il n'y a pas d'opposition frontale entre le global et le national. Si on pose le problème comme ça, il est insoluble. Justement, le grand problème, c'est l'interpénétration des deux. Et c'est tenir compte que avec l'évolution technologique, avec la mondialisation, il est de moins en moins facile d'institutionnaliser une frontière entre le national et le global, et le national, en fin de compte, dépend toujours du global. Vous ne pouvez pas créer une politique nationale de santé en France si vous n'êtes pas actif dans la gestion de la question de santé au niveau mondial. On l'a vu avec le Covid.
Juste pour préciser, Bertrand, à mon tour, c'est que entièrement d'accord sur l'interpénétration, mais quand vous avez des soins, en fait, vous envoyez votre facture, ça va être la PHP qui va payer, c'est pas l'OMS. C'est ça que j'essayais de dire.
Oui, mais ça, c'est un autre sujet, c'était pas ce que j'abordais. Ce que j'abordais, c'est redéfinir et renégocier cette frontière entre le national et le global. L'autre élément, moi, qui me paraît vraiment très important, et je pense à mon vieux maître Raymond Boudon, c'est la transformation extraordinairement rapide de la logique du social. La logique du social, dans notre histoire, elle a été construite de manière extrêmement facile et, d'un certain point de vue, ça a marché pendant des siècles. C'était la distinction entre le public et le privé. C'est-à-dire, il y avait la sphère du public, la sphère du privé, la sphère du privé. Vous faites ce que vous voulez. La sphère du public, vous vous comportez en citoyen, c'est-à-dire en position d'allégeance par rapport à l'autorité étatique. C'est ça qui est en train de vaciller. Et ça, c'est extraordinairement important parce que on s'aperçoit de deux phénomènes contradictoires, d'où la difficulté. D'une part, social a toute une série de responsabilités, c'est le concept de responsabilité sociale, qui relève des logiques collectives, donc ce qui relève de ce que devait être l'État autrefois, et d'autre part, l'État lui-même est bien obligé d'intervenir dans certains espaces qu'autrefois on considérait comme privés et impénétrables. Ces deux phénomènes qui jouent presque en sens contraire et qui montrent à quel point il faut repenser ce problème du rapport entre l'État et la société civile. La société civile ne peut plus être indépendante, mais il y a des choses que la société civile prend en charge et que l'État ne pourra jamais directement prendre en charge. Donc ça implique une révolution dans les comportements sociaux. Et là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur l'éducation. C'est absolument fondamental. Il faut tout simplement éduquer l'homme global, l'individu global, le petit enfant global, lui apprendre ce que c'est que la mondialisation. Et on ne se comporte pas dans la mondialisation de la même façon. Mais il faudrait aussi que les chefs d'État apprennent ça.
Oui, parce que voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Magalia Forcade, pour éduquer le petit enfant global, encore faut-il que l'éducateur ait une conduite un peu exemplaire. C'est-à-dire qu'il puisse être pris en exemple par le petit enfant global.
On est loin.
Ah ben ça, on le sait bien. Et on voit bien dans toutes les études qu'on peut mener à la CNCDH à quel point ceux qui sont représentés comme étant les leaders d'opinion, les élites, les responsables politiques, les personnalités médiatiques ont un effet très net, soit négatif quand ils banalisent des propos, par exemple, de haine, soit au contraire, quand ils montrent de l'exemplarité, c'est toute la société qui s'en porte mieux.
Bon ben donc, Éric Fotorino, vous allez publiquement dire que vous arrêtez de manger. C'était quoi, des tartes aux myrtilles?
Des tartelettes aux framboises.
Aux framboises, parce que c'est
la myrtille, je suis capable.
Parce que ça peut être mauvais pour la santé, c'est ça?
Ben c'est trop qui est toujours qu'il faut tempérer le trop.
Et puis ça nous coûterait cher. Si Éric continue à manger trop de tartes aux framboises, c'est nous qui paierons ses soins. C'est voilà. Ça le problème de l'agrégatif.
Bon, vous avez remarqué qu'il s'est pas engagé du tout à arrêter. Hein. Merci en tout cas beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Éric Fotorino, je renvoie au dernier numéro de Zadig trimestriel, Rêver l'Europe. Merci Thomas Gomard, Bertrand Badi et Magali Lafourcade, émission préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisée cette semaine par Alexandra Malka et Luc Jean Reynaud, avec à la prise de son Ludovic Auger.